Le monde diplomatique, analyse.
Un demi-siècle après sa fondation, le Rassemblement national est le premier parti de France. Ses priorités idéologiques, durcissement pénal, combat contre les immigrés et les assistés, inspirent les politiques du président Emmanuel Macron. Mais l'extrême droite se nourrit depuis longtemps des renoncements et des accommodements des partis de gouvernement.
Nous y sommes, par Benoît Bréville, Serge Halimi et Pierre Rimbert. Le monde diplomatique, juillet 2024, lu par Thibaut Delavigne.
Le Rassemblement national ou RN au centre du jeu, l'ordre politique décomposé, comment en est-on arrivé là? Décidé par M. Emmanuel Macron à l'issue du scrutin européen du 9 juin, où le parti de M. Jordan Bardella a réuni deux fois plus de suffrages que celui du président, la dissolution de l'Assemblée nationale ne sanctionne pas seulement l'échec cuisant d'un extrême centre convaincu qu'on dirige un pays comme on administre une banque, ni même celui du personnage impulsif et arrogant qui s'est prétendu rempart contre l'extrême droite avant de lui ouvrir les portes du pouvoir. Si on gagne, prétendait-il pourtant à la plaine Saint-Denis le 20 mars 2017, ils s'effondreront le jour d'après, aucun doute. Le caprice de M. Macron clôt un long cycle d'hypocrisie consistant pour les gouvernements qui se sont succédés depuis que l'extrême droite a pris son envol, à dénoncer les effets dont ils ont favorisé les causes. Les premiers succès du Front national, enregistrés lors de scrutins locaux en 1983, coïncide avec la soumission aux contraintes européennes des socialistes au pouvoir lorsqu'ils renoncent à la politique de rupture avec le capitalisme prévue dans leur programme. Si rien ne relie alors les deux événements, l'obéissance des partis de droite comme de gauche aux règles d'une mondialisation qu'ils présenteront parfois comme heureuse fournira le terreau fertile d'un parti qui totalisait 100 000 voix aux élections législatives de 1981. À mesure que les classes dirigeantes abandonnent à des instances supranationales des pans croissants de leur souveraineté économique, monétaire, juridique, le débat public, jusque-là dominé par l'opposition entre libéralisme et socialisme, se trouve reformulé en clivages nationaux, culturels, sécuritaires, identitaires, voire civilisationnels. Le groupuscule fondé en 1972 par des partisans de Vichy et de l'Algérie française va s'épanouir dans le chaos social né de la désindustrialisation et du chômage de masse. Il convertit la colère suscitée par une oligarchie libérale ou socialiste devenue gestionnaire de la mondialisation en un ressentiment dirigé vers le haut contre ses dirigeants successifs, ses alliés intellectuels et médiatiques, et vers le bas en une haine inquiète envers certains des plus fragiles, les travailleurs arabes qui occupent nos emplois pendant la première vague de chômage de masse, puis les musulmans qui menacent nos valeurs après le 11 septembre 2001 et plus encore après les attentats terroristes en France entre 2012 et 2016. Le succès de l'extrême droite a pour condition insuffisante le chômage, la précarisation du travail, la désorganisation de la vie et l'incertitude de l'avenir qu'ils engendrent. Mais il découle aussi d'une instrumentalisation politique cynique. Parce qu'elle imagine le FN puis le RN inéligibles, la classe dirigeante espère se faire réélire en faisant campagne contre la formation paria, non sans avoir préalablement composé avec ses priorités relatives à l'immigration et à la sécurité. Omniprésent depuis le 9 juin, le thème du combat contre les extrêmes réactive le vieux refrain du parti du juste milieu, destiné à réserver au seul bloc central progressiste, démocratique et républicain, ainsi que vient de le qualifier M. Macron, le droit de diriger le pays pour l'éternité. Car la dissolution marque aussi la fin d'un théâtre d'ombre politique. Sa dramaturgie suit une logique dont les acteurs ont accepté les prémices dès le début des années 1990. Si, premièrement, la montée des nationalismes, ici celle du FN, est largement le sous-produit politique de la mondialisation et des bouleversements, des peurs qu'elle induit, et que, deuxièmement, les dirigeants politiques jugent néanmoins celle-ci inévitable, voire souhaitable, alors la vie démocratique doit désormais battre au rythme d'une priorité scandée scrutin après scrutin, empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir, lui faire barrage. Au fil des ans, le FN puis le RN ont ainsi constitué une rente pour les partis traditionnels qui bénéficiaient déjà d'un mode de scrutin taillé à leur avantage. Jusqu'en 2022, le RN ne disposait que d'une poignée de parlementaires. Aujourd'hui encore, il ne contrôle l'exécutif d'aucune des 13 régions françaises. En somme, les formations de l'arc républicain se sont présentées alternativement contre le FN-RN avec la quasi-certitude de l'emporter et la faculté de se désintéresser des racines de son succès.
La seule internationale de style fasciste est rouge et non pas brune, juge Raymond Aron en 1983.
Mettre en avant la frange de militants et de cadres frontistes ouvertement racistes sert alors de prétexte pour éliminer du jeu électoral la part croissante des classes populaires puis des classes moyennes qui utilisent ce parti rejeté pour exprimer leur rejet des partis. Les électeurs du FN, ou plus tard du RN, effarouchaient un instant les élites avant d'être renvoyés, comme les abstentionnistes, au néant politique. L'exigence républicaine de contourner la démocratie, sujette aux peurs, menacée par des passions politiques sans nuance, plus récemment par les fausses nouvelles et les ingérences étrangères, a permis de justifier les verdicts d'experts contre les choix populaires. Bien au-delà du seul vote pour l'extrême droite, le mépris des suffrages populistes tint lieu de vertu politique. Les exigences de Bruxelles, Moody's et McKinsey, s'imposent plus spontanément comme l'évidence aux anciens élèves de Sciences Po, de l'ENA ou de Polytechnique que celles des 54,8% de non au référendum du 29 mai 2005, des gilets jaunes, des soignants, des grévistes, des 70% de Français opposés à la dernière réforme des retraites. Durant ces décennies, des responsables politiques de droite comme de gauche ont pourtant montré qu'ils pouvaient encore agir vite et fort, écarter les règles européennes qu'ils avaient présentées comme intangibles lorsque leurs adversaires réclamaient qu'on les transgresse, mais uniquement afin que tout continue comme avant. On négocia de nouveaux traités de libre-échange, on renfloua les banques, on finança l'économie pendant la pandémie. Le cas français n'est pas une exception, tant les grandes orientations économiques et sociales des pays occidentaux s'accordent au même diapason. La mise en concurrence universelle des ouvriers, des employés, des cadres puis des services publics a partout tracé les mêmes oppositions nationales entre stables et précaires, actifs et chômeurs, métropoles connectées et territoires abandonnés, classes cultivées et non diplômées. Et, sous des formes diverses, la même montée en puissance de formations d'extrême droite plaidant pour un capitalisme national dirigé par des élites locales. Le développement du FN présente toutefois des spécificités. Suivre le méandre qui conduit de la fermeture d'une usine, d'un bureau de poste, d'une perte de pouvoir d'achat aux 31,4% des suffrages exprimés le 9 juin en faveur d'un parti xénophobe implique de revisiter le comportement des élites de tous bords qui, pendant 40 ans, ont vécu comme une divine surprise la présence d'un croque-mitaine qu'il suffisait d'écarter indéfiniment du jeu pour que leur joie demeure. Le 24 avril 1988, M. Jean-Marie Le Pen, qui vient de réunir 14,39% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, célèbre à la télévision le grand élan de la Renaissance nationale, qui emportera les tenants du déclin et de la décadence. Il talonne de 2 points l'ancien Premier ministre Raymond Barre et écrase le communiste André Lajoigny avec ses 6,76%. Depuis sa fondation en 1972, le FN défend un programme d'extrême droite classique mêlant rejet de la Révolution française, anticommunisme forcené, renvoi des immigrés et rétablissement de la peine de mort. L'ordre moral n'est pas oublié. Patriarcal, le FN est furieusement opposé à la liberté d'avorter et aux droits des minorités sexuelles. Sur le plan économique, il s'oppose au marxisme, à l'économie mixte que défend Valéry Giscard d'Estaing au ministère des Finances entre 1959 et 1966, puis entre 1969 et 1974, puis à son libéralisme économique lorsqu'il devient président entre 1974 et 1981. Il entend concilier économie nationale, protectionnisme et démantèlement de l'État social, baisse des impôts et suppression de la sécurité sociale, retraite par répartition et privatisation massive. Un programme inspiré à la fois par le président américain Ronald Reagan, en compagnie de qui M. Le Pen s'évertue à se faire photographier, et par le dictateur chilien Augusto Pinochet, dont il soutient qu'il a sauvé son pays. Le premier succès national du Front remonte aux européennes de 1984, avec 11%. M. Le Pen obtient ses meilleurs résultats chez les petits patrons et les cadres diplômés de l'enseignement technique et commercial, ainsi qu'au sein d'une bourgeoisie réactionnaire souvent catholique et nostalgique de l'Algérie française. 4 ans plus tard, une part croissante, 27%, des artisans, commerçants et chefs d'entreprise menacés par la désindustrialisation rejoint l'électorat frontiste et avec elle une proportion significative, 19%, d'ouvriers. Ce coudoiement de population aux intérêts divergents persistera pendant 2 décennies. Le contexte porte le parti plus que son programme. Dès l'élection de François Mitterrand, la question sociale des travailleurs immigrés et de leurs enfants est reformulée en un problème d'ordre public et de sécession ethnico-religieuse. Les conflits de 1982-1984 dans les usines automobiles, où les licenciements s'enchaînent par milliers, soulèvent une houle xénophobe dans la presse conservatrice. Le premier ministre socialiste Pierre Mauroy la conforte lorsqu'il évoque en janvier 1983 des travailleurs immigrés agités par des groupes religieux et politiques. Un chômage de masse qui frappe en priorité les ouvriers spécialisés d'origine immigrée. le désarroi du gouvernement de gauche, la surenchère de la droite sur le thème du désordre et de la délinquance, la forte audience médiatique des thèmes liés à l'immigration et à l'insécurité favorisent le décollage électoral du FN. 11,26% dans le 20e arrondissement de Paris en mars 1983, avec comme programme « Immigration, insécurité, chômage, fiscalisme, ras-le-bol ». L'automne suivant, c'est l'élection municipale de Dreux et les 16,72% du FN. La seule internationale de style fasciste est rouge et non pas brune, estime néanmoins l'intellectuel modéré de référence Raymond Aron, dont on prétend qu'il ne s'est jamais trompé. Que quatre compagnons de Jean-Marie Le Pen siègent au conseil municipal de Dreux lui semble moins grave que d'accepter quatre communistes au conseil des ministres. De son côté, la gauche socialiste réplique à cette progression sur le terrain culturel plutôt que social. Ces médias célèbrent la culture beurre et le Parti socialiste parraine SOS Racisme, dont nombre de cadres le rejoindront. L'un d'eux, M. Harlem Désir, dirigera même le PS au début du quinquennat de M. François Hollande, avant de devenir sous-ministre des Affaires européennes. Le FN devient l'épouvantail indispensable des socialistes. Il permet de remobiliser des militants étourdis par le grand tournant libéral de 1983-1984 et crée un levier pour semer la discorde chez l'ennemi. On a tout intérêt à pousser le FN, explique en juin 1984 Pierre Bérégovoy, ministre des Affaires sociales. Il poursuit. Il rend la droite inéligible. Plus il sera fort, plus on sera imbattable. C'est la chance historique des socialistes. Anticipant un raz-de-marée de droite aux élections législatives de 1986, Mitterrand fait voter le scrutin proportionnel qui provoque l'entrée de 35 députés frontistes au Palais Bourbon. À intervalles réguliers, pour faire monter le FN et entraver ainsi les succès électoraux de la droite parlementaire, les socialistes agitent le chiffon rouge du droit de vote des immigrés aux élections locales, sans jamais légiférer en ce sens. M. Le Pen doit d'ailleurs ses premiers coups médiatiques aux locataires de l'Élysée. Répondant à une lettre du fondateur du FN qui s'offusque de son invisibilité médiatique, Mitterrand intervient personnellement en juin 1982 pour qu'il passe en direct au journal télévisé, puis en février 1984 qu'il soit l'invité de l'Heure de vérité, instance médiatique de consécration politique. Le président socialiste ne voit alors en M. Le Pen qu'un notable inoffensif. Il ne pouvait pas soupçonner qu'en 2022 la Nièvre, son fief électoral, voterait pour Mme Marine Le Pen. Entre-temps, le parti adopte les deux traits qui resteront sa marque de fabrique. D'une part, tirer profit des transformations du champ médiatique pour présenter l'actualité comme une validation de ses thèses. De la radicalisation sécuritaire de la droite sous la férule du couple Charles Pasqua-Robert Pandreau entre 1986 et 1988, aux émeutes de Vaux-en-Velin en octobre 1990, commentées en direct à la télévision comme une intifada des banlieues, en passant par la première affaire du foulard islamique à Creil et la fatwa de l'ayatollah Roaleh Khomeini contre l'écrivain Salman Rushdie un an plus tôt, la toile de fond médiatico-politique alimente la crainte d'une deuxième génération d'immigrés moins loyaux à la France qu'à leurs origines arabes et bientôt qu'à l'islam. D'autre part, le FN contrebalance son dogmatisme nationaliste par une déconcertante souplesse tactique. La mise en place du marché unique, 86-93, que plébiscitent la droite et les socialistes, et la fin concomitante de la guerre froide, inspirent à M. Le Pen un virage serré. Initialement favorable à une monnaie et une défense européenne commune contre la menace soviétique jusqu'au milieu des années 1980, il dénonce désormais une Europe mondialiste et tiers-mondiste, les fédérastes de Bruxelles et les banquiers apatrides qui seraient à l'origine du traité de Maastricht, auquel il s'oppose. Tout comme il combattra la politique agricole commune, les accords de libre-échange, le traité de constitution européenne en 2005 et deux ans plus tard, celui de Lisbonne. Sur ce point, l'actualisation du programme économique du FN intervient dès 1992. Le parti insiste désormais sur la lutte contre le libéralisme sauvage et sur la notion de nouvel ordre mondial, soutenu par les grandes multinationales que le sens de leurs intérêts pousse à la recherche d'un libre-échange mondial généralisé et dérégulé. Au moment où un oui étriqué au référendum de Maastricht, 51%, révèle à une classe politique et médiatique quasiment unanime la popularité très relative de l'Europe des marchés qu'elle imaginait consensuelle, le FN enterre l'ultralibéralisme de Reagan. Il se découvre défenseur des nombreux services publics, commissariats, maternités ou services hospitaliers menacés par l'Union. La dévotion pro-européenne des milieux d'affaires, des classes cultivées, des médias et des partis de gouvernement offre alors au FN un quasi-monopole de la critique radicale d'une architecture bruxelloise de plus en plus impopulaire. À la différence de la gauche, il ne prétend pas la réformer dans le sens d'une Europe sociale. On pouvait lire dans l'Euromanifeste frontiste de 2009 « L'Union européenne est devenue un système totalitaire et son bilan est un véritable désastre économique et social. Récession, délocalisation, mépris des peuples, explosion des prix depuis l'instauration de l'euro, disparition de notre agriculture et de nos services publics, immigration massive, destruction de notre identité nationale. Madame Le Pen prolongera cette orientation en réclamant la sortie de l'euro, ce qui restera sa position jusqu'en 2018. Plusieurs facteurs ralentissent périodiquement la progression de l'extrême droite. D'abord, les scissions ou crises internes. Celle de 98-99 entre M. Le Pen et M. Bruno Maigret prive le FN de nombreux cadres et contribue à son résultat exécrable lors de l'élection présidentielle de 2002. Certes, il parvient au second tour, mais pour y recueillir moins de 18% des suffrages, soit à peine plus qu'au premier. Le plafond de verre paraît alors singulièrement bas, presque rédhibitoire. 5 ans plus tard, grâce à une campagne sur les thèmes de l'insécurité, de l'immigration et de l'identité nationale dans la foulée des émeutes de novembre-décembre 2005, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy séduit une partie de l'électorat frontiste, ramenant le score présidentiel de M. Le Pen à 10,4% des voix lors de sa 5e et dernière candidature à la magistrature suprême. Pour tous, le danger semble alors écarté. D'autant qu'un autre élément paraît démontrer que dorénavant les militants de gauche incarnent mieux la protestation contre les réformes néolibérales, l'embarras du FN lors des mouvements sociaux qui se multiplient. En avril 2015, le député sarkozyste Éric Ciotti prétendait que le programme économique de Madame Le Pen est très exactement celui de M. Jean-Luc Mélenchon et de M. Olivier Besancenot, dirigeant du nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Très exactement, assurément pas. Mais les électorats de la droite et de l'extrême droite, proches sur les questions de l'islam et de l'immigration, divergeaient déjà de plus en plus dans leurs appréciations respectives du retour à la retraite à 60 ans, de la suppression de l'impôt sur la fortune, d'une réforme en profondeur du système capitaliste, voire d'une justice sociale prenant aux riches pour donner aux pauvres. Dans chacun de ces cas, les frontistes étaient environ 2 fois plus nombreux à appuyer des réformes réclamées par la gauche de gauche et par les syndicats. L'alliance des droites semble alors impossible. D'ailleurs, Madame Le Pen n'en veut pas. Cependant, lorsqu'il s'agit de se mobiliser contre les politiques néolibérales mises en œuvre par des gouvernements conservateurs, mais aussi socialistes, le FN-RN est aux abonnés absents. Certes, les syndicats le repoussent, mais leur cause embarrasse plutôt l'extrême droite, vu qu'en réunissant Français et immigrés, elle relègue au second plan les clivages identitaires qui constituent son fonds de commerce. Qu'il s'agisse du grand mouvement social de novembre-décembre 1995, partiellement victorieux, de la réforme des retraites en 2010, de la grève des cheminots en 2014, de la loi travail en 2016, du mouvement des gilets jaunes en 2018 ou d'une nouvelle réforme des retraites l'année suivante, le FNRN n'est pas dans son élément. Il doit à la fois être proche de son électorat, solidaire des protestations sociales et rester associé au parti de l'ordre, contre d'éventuels débordements de manifestants face à la police. Pour résoudre cette contradiction, il prétend que les politiques sociales néolibérales, qu'il combat lui aussi, sont la conséquence des traités européens que certains syndicats et militants de gauche ont soutenus et des gouvernements successifs qu'ils ont élus pour faire barrage à l'extrême droite, 2002, 2017, 2022. Le fait que dès 1992, Mitterrand et Jacques Chirac aient battu la campagne en faveur du traité de Maastricht, tout comme 13 ans plus tard, messieurs Sarkozy et Hollande soutiendraient le traité constitutionnel européen, parut valider cette observation. Entre 1981 et 2017, 4 présidents de la République, 2 de droite, 2 de gauche, et pourtant un même choix relatif à l'Europe, alors même qu'elle déterminait un nombre croissant d'orientations économiques et sociales. UMPS, en apposant le sigle du principal parti de droite, l'UMP, à celui du PS, l'un et l'autre associés dans la même majorité au Parlement européen, le FN-RN affichait sa singularité sans trop maltraiter la réalité. Même adhésion aux traités européens, même majorité à Bruxelles, même combat au sein d'un front républicain contre l'extrême droite à l'occasion des grands scrutins. Comment s'étonner que le FNRN apparaisse comme la grande force d'alternance et le vote barrage comme une coalition du statu quo au service d'un syndicat de sortant? D'autant qu'une telle stratégie, compréhensible pour barrer la route du pouvoir à une formation extra-parlementaire et fascisante, le cas du Front Populaire en 1936, parut moins convaincante au fil du temps. D'une part parce que l'extrême droite se banalisait, arrondissait ses propos, se prétendait même philosémite. D'autre part parce que les partis qui se liguaient contre elle ne cessaient de plagier des éléments clés de son programme. Le 16 novembre 2016, M. Hollande déclara devant le Parlement réuni en congrès « Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, même s'il est né français. » Je dis bien « même s'il est né français ». dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. Madame Le Pen se félicite aussitôt qu'un président socialiste opère cette distinction entre citoyens français en fonction de leur origine. Le FN a un programme réaliste et sérieux qui est même source d'inspiration pour François Hollande. Avec M. Macron, ce sera carrément Noël pour l'extrême droite. Une police débridée, des manifestations interdites, une loi immigration, une autre contre le séparatisme, l'emploi des termes ensauvagement, décivilisation, immigrationnisme. Cette fois, c'est le député RN Jean-Philippe Tanguy qui se réjouit. Le fait de valider nos thèses rend possible et probable et souhaitable aux yeux des Français notre arrivée au pouvoir. L'original gagne toujours sur la mauvaise copie, ou même la copie excessive concernant le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, lequel avait jugé Madame Le Pen trop molle face à l'islamisme. Le 11 septembre 2001, la question du terrorisme, de l'islam radical, s'installe durablement au centre des débats français. Les attentats d'Al-Qaïda inaugurent une ère d'instabilité internationale génératrice d'une hausse considérable des migrations dont l'extrême droite saura profiter. En 1980, on comptait 8,4 millions de déplacés dans le monde, puis 17,3 millions en 90, 19,1 millions en 2001, 41 millions en 2013. Fin avril 2024, leur nombre atteint 120 millions. Simultanément, les débats sur le voile et la burqa envahissent l'actualité, en particulier après les attentats meurtriers contre une école juive, Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, Samuel Paty, etc. Le FN ajuste alors son discours à un courant intellectuel qui, des Pays-Bas à l'Italie, présente l'islam comme un ennemi mortel de la civilisation européenne. Les chaînes d'information en continu y contribuent, ce qui permet au FNRN de combattre l'immigration du Sud sans trop mettre en avant des préjugés racistes, des diabolisations obligent, mais la défense de la liberté et d'un vivre ensemble, égalité homme-femme, droit des gays et lesbiennes, liberté d'expression et de caricature, qui serait menacée par un séparatisme musulman dans les territoires perdus de la République. La convergence entre cette idéologie et la laïcité, instituée en nouvelle religion séculaire après les massacres de Charlie Hebdo, offre au discours de l'extrême droite une onction républicaine. Pourtant, l'hégémonie idéologique croissante ne se traduisait toujours pas en position de pouvoir. La crise de 2008 et ses ondes de choc social allaient y remédier, en étendant l'ère d'influence du FNRN. Tandis que les contre-coups du choc pétrolier avaient, dans les années 80, balayé les grandes usines des métropoles, la débâcle décime cette fois les établissements modestes des campagnes et des petites villes. Les secteurs du bois, du carton, du matériel de transport, de l'agroalimentaire, du médicament. Des dizaines de milliers d'ouvriers perdent leur emploi dans des territoires qui n'en regorgent pas, à moins de s'éloigner de son domicile et d'alourdir sa facture automobile. L'État laisse se désintégrer ce tissu manufacturier qui avait jusque-là résisté aux délocalisations. Le fossé entre les métropoles mondialisées, rapidement remises sur pied, et le reste du pays s'accroît. S'ensuit un sentiment d'injustice, que la numérisation à marche forcée, l'austérité imposée par Bruxelles et défendue par Paris, accentue, et qui font naître une défiance envers la puissance publique. En quelques années, écoles, gares, tribunaux, maternités, services d'urgence, centres des impôts ferment par centaines, dans les grandes villes mais surtout dans les petites et les villages. Entre 2011 et 2016, la moitié des bureaux de poste de la Sarthe tire le rideau. L'État s'efface du paysage. Le FN déroule alors sans effort sa stratégie de mise en concurrence des pauvres. L'argent public ne profite pas, selon lui, à ceux qui le méritent, mais aux étrangers qui exploitent la protection sociale, aux banlieues qui refusent de se soumettre aux lois de la République. L'historienne Valérie Igounet raconte. En 2014, Thierry Lepan, alors secrétaire général de la CGT, se trouve en séance de bureau confédéral avec son syndicat. Il lit à haute voix un tract dont les grandes lignes sont, entre autres, un nécessaire protectionnisme et la défense des services publics par un État stratège recouvrant sa souveraineté bradée à Bruxelles. Il récolte l'assentiment général de ses camarades. « Il y a juste un problème, explique-t-il. Ce tract a été rédigé par des gens du Front National. Alors on fait quoi maintenant ?»
La paupérisation des campagnes accélère le maillage territorial du RN.
Inspiré par les thèses du géographe Christophe Guilluy sur la France périphérique et les analyses du sondeur Jérôme Fourquet, ce positionnement de défenseur des exclus de la mondialisation, méprisé par les classes supérieures, est d'autant plus efficace qu'il s'appuie sur un constat juste. De fait, les élites urbaines se contentent souvent d'un rapport de villégiature avec les campagnes, dont elles ignorent les préoccupations. Or, avec la montée en puissance des enjeux environnementaux, cette France s'est transformée. Longtemps vantée comme un idéal par opposition aux citadins aliénés par le métro-boulot-dodo, le modèle du petit propriétaire pavillonnaire se trouve métamorphosé en anti-modèle par l'urgence climatique. L'avenir appartient aux citoyens éco-responsables qui se déplacent à vélo, mangent des légumes bio, privilégient les circuits courts et érigent sa coûteuse vertu en impératif moral. Cette nouvelle modernité progressiste que l'austérité cantonne aux métropoles renvoie des pans entiers du monde populaire à l'obsolescence. Ne lui restait plus qu'à mal voter. Le FN saura se tourner vers cette ruralité pour étendre son implantation qui, pendant deux décennies, avait été concentrée autour de ses bastions du sud-est et du nord-est du pays. L'indifférence de M. Macron à la ruralité, son mépris des gens qui ne sont rien, ses grandes réformes contre les retraites, l'assurance chômage, le code du travail, sans oublier la taxe sur les carburants, ont provoqué un soulèvement politique et populaire contre la paupérisation de la France non métropolitaine. Inédit par sa composition sociale et ses modes d'action, le mouvement des Gilets jaunes s'est heurté à l'hostilité des médias, à la défiance d'une partie de la gauche, à la répression du gouvernement, puis à la récupération de l'extrême droite. « Je suis là pour vous parler au nom d'une France qui se sent humiliée parce qu'on leur a dit « vous n'êtes rien, des bons à rien », s'emporte Madame Le Pen sur Europe 1 le 29 novembre 2018. Elle poursuit « Maintenant ça suffit, la classe politique s'est occupée prioritairement et même exclusivement de toutes les minorités possibles et imaginables dans notre pays depuis des années. Nous sommes la majorité et nous méritons la considération et le respect. Nous, l'électorat populaire dont parle Madame Le Pen, a choisi l'abstention aussi souvent que le vote. » Si une partie de celui-ci accorde ses suffrages à l'extrême droite, c'est également pour faire barrage à une mondialisation qui a ravagé le monde des ouvriers, des employés, des petites classes moyennes. Elle fait un pari assurément perdant. Car à mesure qu'il contamine la droite et le centre avec ses obsessions sécuritaires et migratoires, le parti de Madame Le Pen parachève sa normalisation économique, notamment sur la question européenne.
Son accession au pouvoir apporterait donc à son électorat de petits, de sans-grades, d'exclus, de mineurs, de métallos, d'ouvrières, d'ouvriers, d'agriculteurs acculés à des retraites de misère, invoquées le 21 avril 2002 par M. Le Pen, les mesures xénophobes auxquelles certains aspirent peut-être.
En revanche, cette victoire de l'extrême droite ne ferait rien pour inverser la dynamique qui les a broyés. Une gauche qui enfin s'y emploierait n'aurait donc plus aucun rival, juste un chemin semé d'embûches à éviter et une page blanche à écrire. Paris gagnant ? C'est à présent le seul qui reste. Thank you.